Chapitre 25, première partie. Religion et théologie. Avant l'existence du ciel et de la terre, il y avait un être indéfinissable. Tellement calme, tellement tranquille, tellement immatériel. Il se tient seul en soi-même dans l'immuabilité. Il s'écoule à travers tout et pourtant ne court aucun risque. On pourrait le désigner comme la mère de tout sous le ciel. Je ne connais pas son nom, mais voulant lui donner un nom, je l'appelle Tao. Si j'étais forcé de le décrire, je dirais qu'il est grand. De grand, je dirais qu'il s'envole au loin. De s'envolant au loin, je dirais qu'il est lointain. De lointain, je dirais qu'il revient toujours. C'est pourquoi Tao est grand, le ciel est grand, la terre est grande, le roi est grand. Il y a quatre grandes puissances dans le monde et le roi en est une. La loi du roi est terrestre, la loi de la terre est céleste, et la loi du ciel vient de Tao. Mais la loi de Tao vient de lui-même. Avant l'existence du ciel et de la terre, il y avait un être indéfinissable. Ainsi commence le chapitre 25 du Tao Te Ching. Par cette parole, vous comprenez sans doute que ce chapitre vise à donner des indications sur l'évolution des choses sous leurs deux aspects, cosmos et anthropos, le monde et l'homme. Pour cela, il attire notre attention sur le fait qu'avant l'existence du ciel et de la terre, il y avait quelque chose d'autre. La majorité de ceux qui se penchent sur la métaphysique, l'enseignement du suprasensoriel, ont complètement oublié cette idée. Ce qui est fort à déplorer, car sans cette connaissance, on commet de grandes erreurs. En réfléchissant à ce premier verset du chapitre 25, on comprend que depuis le commencement, il y a effectivement deux espaces, deux domaines de nature astrale. Cette idée est tout à fait familière à ceux qui appartiennent à la jeune gnose. En effet, nous affirmons régulièrement l'existence de la nature de la mort, la nature dialectique, et de la nature originelle. Cette idée des deux natures n'est pas seulement purement philosophique, elle est aussi démontrable scientifiquement. À l'évidence, la manifestation entière du salut gnostique est fondée sur elle. Le chemin de la nature dialectique mène à la nature originelle. La philosophie gnostique de tous les temps a toujours parlé de ces deux espaces, de ces deux natures, du domaine de la vie et du domaine de la délivrance. À ce propos, notez qu'il faut faire une distinction subtile qui ne se remarque pas toujours. Il y a une grande différence entre les eaux de la vie et l'eau vive. L'eau vive sert à la délivrance de celui qui se trouve dans les eaux de la vie, dit l'enseignement universel. Jadis, il y avait coopération intérieure entre l'eau vive et les eaux de la vie, alors que celle-ci n'était pas encore corrompue, qu'il n'était pas encore question d'une chute, mais d'un champ de développement en équilibre avec la seule et unique nature, celle de Dieu lui-même. Ce qui servait donc jadis à la création est employé maintenant à la recréation. Il s'agit de deux champs puissants de nature astrale, un champ qui tente sans arrêt de créer l'ordre, de maintenir l'ordre dans l'autre champ. Nous retrouvons l'unique enseignement des deux natures dans la Bible. Quand il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », c'est de cela qu'il est question. C'est évident si l'on pense que les écrits originaux n'emploient pas le mot « Dieu » mais une forme du pluriel comme « Zéphiroth » ou « Elohim ». Ces appellations nous révèlent l'existence de courants de vie bien supérieurs aux nôtres et qui sont qualifiés d'absolument purs, parfaits, divins. les théologiens des diverses tendances religieuses ont supprimé délibérément ces appellations parce que leur théologie, aujourd'hui comme hier, n'est qu'une science au sens ordinaire et ne repose donc pas sur la sagesse universelle. Ils voulaient empêcher que les adeptes demandassent à ceux qui, aux yeux de ces derniers, étaient omniscients, qui étaient ces éphirotes et ces Elohim. Ils n'auraient pu donner aucune réponse sans se référer aux philosophes gnostiques qui n'ont jamais craint la vérité puisqu'ils la possèdent et ont la capacité de la consulter. Mais ces théologiens seraient plutôt morts que de se montrer si clairement inférieurs à ceux qu'ils désavouaient, persécutaient et faisaient tuer. En plus, ils auraient perdu tous leurs adeptes. Ils se cachèrent donc derrière cette désignation abstraite, Dieu. Le prologue de l'évangile de Jean aussi enseigne nettement l'existence de deux champs de vie, la parole et les ténèbres. Parce que les ténèbres n'ont pas compris la parole, le messager de la parole vient dans les ténèbres. Et sans cesse, nous voyons que c'est justement le message de la lumière et ses serviteurs qui, aujourd'hui comme hier, sont persécutés par le groupe des théologiens en place. Jésus le Seigneur fut persécuté et mis à mort par l'Église de son temps avec l'accord des autorités. Tant que durera le monde dialectique, la nature de la mort, aucun changement n'aura lieu dans ce domaine. Vous remarquerez que les grandes calamités qui, depuis le début de notre ère, déferlent sur notre champ de vie ne sont pas le fait de ce que nous avons l'habitude d'appeler la religion, mais exclusivement de ce que l'on prend pour une science, la théologie. Reposant sur une accumulation de données de nature intellectuelle, elle n'est que le produit de l'intellect. C'est pourquoi elle ne peut mener qu'au désastre, comme toutes les autres sciences, à moins qu'elle ne soit fondée sur la sagesse universelle et découle de la source des eaux vives. Toutes les sciences dont le développement n'a pas cette source pour origine ont invariablement suscité des désastres à travers l'histoire du monde. Il serait très important que les hommes comprennent l'unique exigence qui leur est imposée. D'abord, au milieu de la dégradation de la vie actuelle, il faut que le cœur exprime le désir de résoudre les tracas et les problèmes qui écrasent de plus en plus le monde et l'humanité. L'élan du cœur, le désir qui porte le cœur vers la sagesse est la matrice de la véritable religion et de la vraie science. Si vous connaissez cet état d'être, cette inquiétude du cœur, cette aspiration, cette impulsion du cœur qui fait que l'on cherche à résoudre les problèmes de la vie, le désir de sagesse naît en vous. Qu'est-ce que le monde et l'humanité ? Quelle est la mission de l'humanité ? Quelle est sa voie ? Le désir du cœur met en mouvement l'intellect. Celui-ci soutient le désir et cherche partout une solution. Ainsi apparaît pour commencer une sagesse spéculative. La bouche prononce des paroles. Elle témoigne du désir, de la recherche, de la réflexion intellectuelle et de toutes les découvertes. Il en résulte une accumulation d'expériences. Ainsi, l'homme suit-il sa route à travers les contradictions de la nature de la mort et finit-il par découvrir que tout va et vient sans que rien ne change. Ainsi, le désir, activité du cœur, et la recherche intellectuelle, activité du sanctuaire de la tête, s'exacerbent, poussant toujours plus à chercher, à désirer et à tenter de servir l'humanité. Alors, au moment voulu, toutes ces spéculations prennent fin, car soudain, au cours du processus, la lumière de l'autre règne pénètre les profondeurs de l'être. La parole fend les ténèbres et, par la grâce et la vérité, se substitue à la philosophie spéculative, la grande réalité elle-même, la force et la sagesse unique et parfaite qui appartiennent à Tao. C'est avant tout cette sagesse, cette doctrine universelle, puisée directement à la source, qui engendrera la religion et la science susceptibles de procurer à l'humanité la joie, la paix, l'amour et la félicité véritable. C'est pourquoi il est dit aussi que seul l'amour rend libre, que Dieu est amour. D'où la parole « Aimez Dieu par-dessus tout et votre prochain comme vous-même ». Comprenez bien cela, car tous les hommes ont beaucoup d'amour en ce monde. Le sexe, la famille, la matière, le pays, le peuple, la race, les amis, leur vie. Et sous l'impulsion de leur humanité, ils retiennent et entourent beaucoup de choses et de personnes, et sans doute aussi l'école spirituelle de la Rose-Croix. Mais tout cela, sans exception, ne concerne que les premières phases du processus inévitable, la pensée et le désir spéculatif, jusqu'au moment où la vérité vivante elle-même naît en l'homme. Alors, la divinité, qui est amour, descend en lui sans intermédiaire et il devient lui-même amour comme Dieu est amour. Aimez Dieu par-dessus tout. Si de la sorte vous avez trouvé Dieu, et ne prenez pas cette parole comme une expression mystique dont on mésuse constamment, si vous avez trouvé Dieu sur le chemin du devenir de la conscience gnostique, alors seulement vous pourrez vraiment l'aimer. Et quand, dans la vérité et la réalité, vous devenez ainsi semblable à Dieu, vous vous approchez de votre prochain tel que vous êtes, avec la force que vous possédez, et alors seulement vous pourrez l'aimer comme vous-même. Seules deux choses sont donc possibles en tant que comportement inattaquable et indéfectible. Servir et aimer la divinité, l'être qui est au-dessus et à l'extérieur de toutes les terres et de tous les cieux, l'essence de l'autre règne. Et comme vous êtes devenu semblable à cette essence, à cette nature, vous servirez et aimerez également votre prochain grâce à votre état d'être. Vous ne pourrez pas faire autrement. Et dans ces conditions, il ne vous restera qu'à présenter à votre prochain l'exigence du chemin et à lui offrir la force d'y répondre. Supposez qu'en raison de votre existence, vous soyez devenu lumière, aborderiez-vous votre prochain avec les ténèbres? Tolèreriez-vous qu'il serve les ténèbres? Ce que vous êtes, manifestez-le aux autres. C'est la seule chose que vous puissiez offrir à votre prochain pour lui révéler la force nécessaire à l'accomplissement de l'unique exigence. S'il n'a ni la capacité ni la volonté de satisfaire à cette exigence d'amour, alors vous l'aimerez au point de le laisser complètement libre, de le rendre libre. Car vous le savez, qui n'est pas de la gnose, qui ne peut pas encore l'être, n'entre pas dans l'autre royaume. Retenir cet homme signifierait le brûler. Cela ne serait pas de l'amour. C'est pourquoi le grand amour du prochain, qui est la réalité même, doit savoir attendre, attendre que l'équilibre soit acquis entre les deux natures, la nature unique, qui est de Dieu, et l'autre nature, celle du champ de développement. Dès que cet équilibre est acquis entre ces deux champs de vie, il se fonde en un seul. Réfléchissez à tout cela, avant que nous passions à l'analyse du chapitre 25.